Bonjour tout le monde. Quelle époque troublée nous vivons. Quelle semaine difficile nous pouvons vivre. Et quels contrastes saisissants aussi dans lesquels nous sommes ces jours-ci. Nous sommes à la fois dans le temps de l'Avent, le temps qui nous permet de nous préparer à célébrer la venue de Jésus qui est la lumière du monde. Et d'un autre côté, nous vivons des périodes de troubles, des périodes de violence, de haine. Nous voulons à la fois nous souvenir de Jésus et en parallèle, nous vivons dans une société qui est en proie au doute. Beaucoup ressentent un sentiment d'injustice et je crois pouvoir dire que nous sommes dans une société sans espérance, sans Dieu. Nous sommes envahis par des images de destruction, des images d'insurrection qui envahissent nos écrans. Et peut-être que ce matin, c'est le moment de dire nous voulons un signe. Un signe qui nous montre où aller. Quelle direction faut-il prendre? Et je pense que beaucoup de personnes dans ce monde aspirent aujourd'hui à un signe fort qui nous montre une direction à suivre. Les écrans de télévision, les plateaux de télévision sont envahis de personnes qui amènent des compétences d'analyse, on essaye de décrypter ce qui nous arrive. Les pages Facebook sont remplies de commentaires de gens qui expriment leur indignation ou qui pensent simplement à des recettes, il suffit d'eux pour que tout change. Mais qui aujourd'hui nous oriente sur la direction à prendre? Nous avons besoin d'un signe fort, d'un signe qui vient apporter la lumière dans les ténèbres présentes, qui vient apporter de la lumière dans une société qui est en perte de repères, qui est désorientée, une société qui est loin de Dieu. Et le texte que nous allons lire ce matin a des résonances toutes particulières avec l'époque dans laquelle nous sommes. Même s'il a été écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ, dans les années 735, dans ce texte, il y a question de guerre et de bruit de guerre, des bruits qui arrivent jusqu'à Jérusalem, la capitale du royaume de Juda. Et pour que nous comprenions bien la lecture que nous allons faire, je vous donne juste quelques éléments de contexte au préalable. Les capitales de deux pays situés au nord de Jérusalem se montrent menaçantes. Il s'agit de Damas pour le royaume de Syrie. Il s'agit de Samarie pour le royaume d'Israël. Eh bien, dans ces deux capitales, les deux rois, Retsin, roi de Syrie, Pekah, roi d'Israël, se préparent ensemble pour attaquer Jérusalem, pour attaquer le royaume de Juda. On entend déjà les bruits de bottes à Jérusalem. On sait que les armées sont en route et tout le monde se met à trembler, comme les feuilles des arbres quand il y a un vent violent qui agite la forêt. Et dans ce contexte troublé, chaotique, Dieu décide de parler par un prophète, Ésaïe. Ésaïe va donner deux signes au travers de deux enfants. Il va montrer au travers de ces deux enfants qu'une espérance est possible dans le trouble qui agite Jérusalem. Une espérance est possible pour ceux qui placent leur confiance en Dieu. Le premier de ces enfants s'appelle Shear Yashub, ce qui veut dire « un reste reviendra ». Peut-être le jugement de Dieu va-t-il s'abattre, mais quand le jugement pointe à l'horizon, Dieu l'accompagne toujours d'une parole qui permet le repentir, la restauration et le retour. Oui, un reste va revenir. Et le deuxième signe qui est donné, c'est celui d'un autre enfant dont la naissance est promise comme miraculeuse, un enfant qu'on va appeler Emmanuel, ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Au cœur des ténèbres, Dieu promet sa présence avec un enfant royal qui amène la présence de Dieu ici-bas, dans nos détresses, dans nos ténèbres. Cet enfant, les évangélistes Matthieu et Luc l'ont identifié comme étant Jésus. Jésus, le Messie promis. Jésus, la lumière du monde, le prince de la paix. Alors lisons ensemble le livre d'Ésaïe au chapitre 7 et je lirai les 17 premiers versets. Ésaïe, chapitre 7, et je lis dans la version du Semeur. Sous le règne d'Achaz, fils de Jotham et petit-fils d'Ozias, roi de Juda, Retsin, roi de Syrie, se mit en campagne avec Pekar, fils de Remaliahou, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer. Mais ils ne purent la vaincre. Quand on apprit à la cour du royaume de David que les Syriens avaient pris position en territoire éphraïmite, c'est-à-dire dans le royaume d'Israël, le roi et tous ses sujets en furent secoués, comme le feuillage des arbres de la forêt quand ils sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, « Va à la rencontre d'Achaz, toi et Shéariachoub, ton fils. Tu le trouveras vers l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du teinturier, et tu lui diras, « Écoute-moi, garde ton calme. » N'aie donc pas peur, ne perds pas courage devant ces deux bouts de tison fumant, devant la fureur de Retsin et de son pays, la Syrie, et devant le fils de Remaliahou. La Syrie, il est vrai, projette un malheur contre toi, de concert avec Éphraïm et le fils de Remaliahou. Et ils ont dit, marchons contre Juda, jetons-y l'épouvante, conquérons-le, établissons-y comme roi le fils de Tabéel. Mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela ne tiendra pas, cela ne sera pas, car c'est Damas, la capitale de la Syrie, et c'est Retsin qui est le chef de Damas. Dans 65 ans, Éphraïm sera écrasé et n'existera plus en tant que peuple. La capitale d'Éphraïm, c'est Samarie, le chef de Samarie, c'est le fils de Remaliahou. Si vous n'avez pas confiance, si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas. » L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, « Demande pour toi un signe extraordinaire à l'Éternel ton Dieu, soit dans les régions d'en bas, soit dans les lieux élevés. » Mais Achaz dit, « Je n'en demanderai pas, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. » Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, dynastie de David, ne vous suffit-il pas de mettre à dure épreuve la patience des hommes pour qu'il vous faille encore lasser aussi mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien. Mais avant que l'enfant apprenne à rejeter le mal et à choisir le bien, les pays des deux rois que tu crains aujourd'hui seront abandonnés. L'Éternel fera survenir contre toi et ton peuple, contre ta dynastie, des jours comme jamais il n'y en a eu depuis l'époque où Éphraïm s'est coupé de Juda. » Jusque-là la parole du Seigneur. Dans ces temps de guerre et de bruit de guerre, Dieu donne deux signes. Le premier est accompagné d'un message qui dit « Sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne mollisse pas. » Nous sommes dans une ville, Jérusalem, qui est devenue prospère. Elle est devenue prospère il y a déjà deux générations, du temps du roi Ozias, le grand-père du roi Achaz. La politique de ce roi avait été couronnée de succès. Ce n'était pas les 30 glorieuses, mais c'était même les 50 glorieuses à cette époque. Le roi avait su tirer profit de la paix qui régnait dans le pays. Il avait développé une structure administrative, militaire, qui avait amené vraiment la prospérité économique. Son fils Jotham lui succède. Comme son père, il est relativement fidèle au Seigneur, mais il est trop faible pour éliminer les idoles et les hauts lieux où l'on se prosterne devant des divinités étrangères. Du coup, on constate dans le pays que les mœurs se dégradent, que l'orgueil augmente, tout comme la corruption. Et progressivement, dans le pays arrive l'anarchie. C'est un peu une constante. Quand on s'éloigne de Dieu, que les mœurs se dégradent, arrive l'anarchie. C'est aussi une époque où commence à se dresser un nouvel empire, qui a une politique expansionniste, qui se fait menaçant, c'est l'Empire assyrien. Et pour se protéger de cet empire menaçant, deux petits pays au nord, le royaume de Syrie et le royaume d'Israël, forment une coalition. Ils aimeraient bien que le royaume du sud de Juda entre dans cette coalition pour former un barrage contre cet empire qui progresse. Mais le roi de cette époque, Jotham, sait qu'on ne peut pas faire alliance avec des peuples païens. Il sait qu'il doit sa confiance en l'Éternel et il refuse d'entrer dans cette coalition. Pas de compromis avec la foi. Arrive le jour où il fait place à son fils, Achaz, qui monte au pouvoir sur le trône à l'âge de 20 ans. Et Achaz quitte la politique isolationniste de son père et il va chercher à se liguer avec la superpuissance de l'époque. Il remet la souveraineté nationale en cause et il entre dans des attitudes de compromission, aussi bien sur le plan politique que sur le plan religieux. C'est un roi qui tolère et même qui promeut l'idolâtrie dans son pays. Il va jusqu'à brûler son propre fils comme sacrifice pour s'attirer la faveur des divinités païennes. Peu après son accession au trône, les deux pays du nord qui n'avaient pas pu faire alliance avec le père d'Achaz, Jotham, pensent que c'est le bon moment d'intervenir et ils cherchent à renverser ce jeune roi qui vient de monter sur le trône. Ils aimeraient placer un homme de paille, un homme qui leur sera fidèle, qui fera partie de cette coalition. Ils se mettent en route avec leurs armées et on entend à Jérusalem les bruits de bottes. Tout le monde a peur, tout le monde tremble. Et c'est dans ce contexte que Dieu appelle son prophète Ésaïe à apporter une parole. La simple présence d'Ésaïe est déjà une parole en soi, puisque le nom d'Ésaïe veut dire « Dieu sauve », tout comme le nom de Jésus qui veut dire « Dieu sauve ». Tout le message d'Ésaïe consiste à dire que dans cette période troublée, il y a un espoir de salut. Dieu n'est pas absent, Dieu n'a pas déserté, il n'a pas abandonné son peuple. Alors qu'il n'y a quasiment aucune chance d'en réchapper, Dieu promet son soutien et son salut. Et la parole d'Ésaïe demeure aujourd'hui. Dieu est présent au milieu de nos troubles. Contre toute attente, contre toutes les apparences, c'est lui qui tient nos vies entre ses mains. Le bateau peut tanguer, il ne chavirera pas avec le soutien de Dieu. Mais en retour, Dieu veut qu'on lui fasse confiance. Il ne veut pas qu'on cherche à s'en sortir par nos propres moyens, par nos propres ressources. Il ne veut pas qu'on entre dans des petites compromissions où, pour réussir à tenir bon dans l'épreuve, nous allons chercher nos propres sécurités en dehors de Dieu. Quand l'ennemi fait rage et qu'il attaque pour tenir bon dans l'épreuve, il faut tenir à Dieu. Et c'est le message du verset 9. « Si vous ne tenez pas à moi, dit Dieu, vous ne tiendrez pas. » Quand Ésaïe se présente au roi, il le rencontre près de l'aqueduc, vers le réservoir d'eau supérieure, en dessus de Jérusalem. Et le roi est en train de vérifier ses réserves en eau. Il se prépare au siège. Il est tentant pour lui de chercher à faire une alliance militaire avec la superpuissance. Ainsi, il pourra résister à ces deux petits royaumes qui cherchent à l'attaquer. Ésaïe va à sa rencontre prenant la route du champ du teinturier. Et le rencontrant, il lui donne ce message d'espoir. Il lui dit « N'aie pas peur devant la fureur de ces deux rois. Ne perds pas courage. Sois tranquille. » Vous savez, face aux menaces qui pèsent, Dieu promet toujours sa protection. Toujours. Même si l'ennemi est déjà en marche, Dieu est le plus sûr des remparts. Ces deux rois fomente le projet de renverser le roi de Juda. Ces deux rois cherchent à renverser la dynastie de David et à empêcher qu'un jour sorte un messie de la lignée de David. Ésaïe répond, cela ne tiendra pas, cela ne se réalisera pas. Mais il y a une condition, faire confiance à Dieu. Lui seul est l'instrument de salut. Dieu ne peut pas tolérer que nous fassions des compromissions et que nous cherchions d'un côté Dieu, mais que nous n'ayons pas autant confiance que cela et qu'en parallèle, nous cherchions encore à nous assurer d'autres ressources qui vont nous garantir la sécurité. Dieu demande un engagement absolu un engagement de confiance qui ne tolère aucune autre sécurité que lui seul. Il faut qu'Achaz abandonne toute volonté de faire alliance avec un peuple païen. Sans quoi Dieu va faire planer une menace de jugement sur le peuple d'Israël. Ce message est porté, incarné par le fils d'Ésaïe, Shear Yashub. Un nom qui veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, un reste va revenir. Et si un reste va revenir, c'est qu'il y a la menace d'une déportation massive. Menace qui va s'exécuter si le peuple ne revient pas à Dieu. Mais Dieu, toujours, fait déjà résonner la possibilité d'une grâce. Un peu comme du temps de Noé, quand il y a eu le déluge. Dieu n'a pas tout détruit. Il a permis que Noé et sa famille en réchappent. De même, si la menace vient à être mise à exécution et que le peuple vient à être déporté, déjà Dieu annonce qu'un petit reste va être sauvé. Ce petit reste est composé de ceux qui auront fait confiance au Seigneur. Shear Yashub se tient là, devant le roi, et sa simple présence appelle une réponse de la part du roi. Le roi ne peut pas rester indifférent. Il entend ce message « Place ta confiance en l'Éternel ». Face aux menaces qui pèsent sur nous aujourd'hui, face à un pouvoir d'achat qui diminue pour certains, face à la crainte de manquer du nécessaire, face à un sentiment d'injustice par rapport à l'écart de plus en plus grand qui se crée entre les riches qui s'enrichissent, les pauvres qui s'appauvrissent, nous avons nous aussi le signe de Shear Yashub. Shear Yashub est là pour nous inviter à placer notre confiance en Dieu et à confesser notre foi en Dieu. Notre sécurité ne va pas venir d'ailleurs que de Dieu. Notre sécurité ne tient pas dans des discours anarchistes, dans des actes de violence pour chercher à se venger ou à se rétribuer soi-même en pillant, en volant. Celui qui cherche par ces moyens-là à se procurer les richesses, Dieu le rétribuera lui-même. La voix de Dieu dit « Si vous ne tenez pas à moi, vous ne tiendrez pas ». Mais avec Dieu, nous pouvons être tranquilles. Pas besoin d'avoir peur. Pas besoin d'entrer dans des compromis pour s'en sortir. Il est celui qui nous délivre. Il est notre sauveur. Vous allez peut-être dire « Mais comment en être sûr ? Ce sont des belles paroles. » Le roi a dû se poser la question « Comment ? Alors que les troupes sont déjà en marche, alors que la menace est imminente d'une invasion, comment croire le prophète et son fils qui disent « Ne fais pas alliance avec d'autres, fais confiance en Dieu seul. » J'imagine qu'Achaz a dû dire « Mais Seigneur, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui parles. » Il n'a pas le temps de le demander qu'Ésaïe le lui propose. Il lui dit « Demande un signe. Demande un signe aussi extraordinaire que tu le souhaites et tu verras que ma parole est vraie. » Achaz sait très bien que s'il demande un signe et que si ce signe venait à se réaliser, il lui faudrait renoncer à ses sécurités et faire confiance à Dieu. Et face à ce risque, il décide de ne pas demander de signe. Il préfère garder ses sécurités visibles, matérielles et faire confiance à la puissance assyrienne qui pourra le protéger de l'ennemi du Nord. Du coup, il dit à Ésaïe, « Écoute, Ésaïe, je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. » Pour se défiler, il utilise même une parole biblique. « Je ne veux pas forcer la main de l'Éternel. » Combien souvent nous pouvons utiliser les paroles bibliques pour nous défiler devant Dieu ? Satan utilisera le même moyen face à Jésus. Il utilisera des paroles bibliques à tort dans le désert pour tenter Jésus et l'amener à désobéir à son Père, à refuser de lui faire confiance. Ésaïe discerne le cœur du roi. Il dénonce cette hypocrisie et lui dit, verset 13, « Écoutez, je vous prie, maison de David, ne vous suffit-il pas de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu ?» Dieu est fatigué par ce roi idolâtre. Et même si le roi ne veut pas un signe, Dieu va le lui donner, mais comme un signe qui résonnera comme un signe de jugement pour lui. Et ce deuxième signe que Dieu donne, c'est celui de l'enfant Emmanuel. Un roi va naître. Un enfant va naître dans une lignée royale. Un enfant qui va assurer la paix et la prospérité, mais bien après l'horizon qui peut être celui du roi Achaz. En attendant que cet enfant vienne pour assurer la paix et la prospérité, Achaz va voir son pays dévasté. La ruine va fondre sur lui. Le pays va être comme envahi par un essaim d'abeilles. La puissance assyrienne sur laquelle il souhaitait compter va venir et va raser le pays comme un rasoir rase non seulement la tête d'un homme, mais même tous les poils du corps. La dévastation sera complète. Lorsque nous refusons de placer toute notre confiance en Dieu, Dieu nous laisse à la responsabilité de nos propres choix et nous devons ensuite assumer. Achaz n'a pas accepté de placer sa confiance en Dieu, il n'a pas accepté de se priver de ses sécurités et pourtant Dieu seul pouvait le protéger. Qui d'autre que Dieu peut ultimement assurer la sécurité? Nous trouvons ce message dans la bouche de l'apôtre Paul plus tard, qui va dire « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» À la fin du chapitre 8 de la lettre aux Romains, il dira « Dans tout cela, dans toutes ces épreuves, dans tous ces combats, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni le présent, avec les bruits de bottes, de guerre, d'insurrection, ni l'avenir, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Toutes les puissances du monde ne pourront rien contre ceux qui placent leur confiance en Dieu. Et Dieu, pour que nous en soyons sûrs, nous donne le signe de l'Emmanuel, un enfant royal, un enfant qui est le Messie attendu, celui qui apportera la délivrance, va naître. Il va naître de manière miraculeuse, d'une jeune fille qui est encore vierge, qui n'est pas mariée. Elle mettra un enfant au monde qui va porter le titre de « Dieu est avec nous ». Il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup renoncent à croire à ce signe. Même si les évangélistes Matthieu et Luc ont compris que Jésus accomplissait ce signe, beaucoup de théologiens libéraux, notamment, pensent que la réponse qui était donnée au roi Achaz devait être beaucoup plus immédiate, qu'il ne pouvait pas s'agir d'un enfant qui allait naître 700 ans plus tard. Comment Achaz aurait-il pu comprendre ? Ils pensent également que le terme « jeune fille » qui est utilisé dans ce texte pour décrire la mère de l'enfant n'implique pas forcément qu'il y ait eu une conception miraculeuse avec une fille qui était encore vierge. Alors il faudrait maintenant que je puisse vous faire une vraie étude biblique pour vous faire la démonstration que nous pouvons faire confiance au texte. Ce sera l'objet d'une étude peut-être en semaine, un jour, mais je crois que nous avons vraiment toutes les raisons de suivre la tradition chrétienne et d'identifier cet enfant à Jésus. Lui seul a la stature royale qui semble correspondre à la solennité de l'annonce. Lui seul est né d'une jeune fille non mariée, et je crois que le terme « Alma » qui est utilisé en hébreu pour décrire cette jeune fille décrit la situation d'une jeune fille qui n'a pas encore connu de relation sexuelle. Seul Jésus semble correspondre en tout point à la description qui est faite pour cet enfant, et jamais personne d'autre n'a revendiqué être lui-même ce signe. Et que nous dit ce signe? Il nous annonce un enfant extraordinaire. Deux chapitres plus loin, et nous allons le voir dimanche prochain, des titres sont donnés à cet enfant. Il est parlé de lui comme d'un conseiller étonnant, d'un Dieu fort, d'un Père éternel, d'un prince de la paix. Cet enfant va inaugurer un royaume de justice et de paix, une justice éternelle, une paix pour toujours. Chaque être humain peut entrer dans ce royaume. Nous sommes dans un monde qui est défiguré, déchiré, qui souffre, qui attend une réalité nouvelle. Eh bien, cette réalité nouvelle est déjà à l'œuvre. Ce royaume inauguré par cet enfant se déploie aujourd'hui, mystérieusement, plus ou moins secrètement, dans ce monde. Ce royaume amène une justice nouvelle, un royaume qui commence avec la naissance d'un enfant. Comment imaginer ce royaume? Il nous suffit de voir comment a vécu cet enfant. Regardez le ministère de Jésus et vous allez voir comment ce royaume s'étend dans le monde. Jésus a guéri les malades. Jésus a nourri les affamés. Jésus a pris soin des exclus. Jésus s'est intéressé à ceux qui avaient besoin de salut. Cet Emmanuel est Dieu avec nous. Jésus amène la présence de Dieu au milieu de notre monde troublé. Emmanuel, c'est comme un cri d'espérance. Nous avons besoin de salut. Regardons à Emmanuel, regardons à Jésus. Jésus est là au milieu de nous. Il est là pour nous guérir, pour nous consoler, pour nous corriger, pour nous sauver. Il est là dans nos chemins de désespérance, dans nos doutes, dans nos peurs. Il est là pour nous apporter le salut. Jésus est notre espoir. Jésus est l'espoir du monde. Jésus est l'espoir des nations. Jésus est l'espoir de notre pays. Un pays qui s'est détourné de Dieu, mais un pays qui a urgemment besoin de Jésus. Ah, si tout le monde pouvait reconnaître Jésus en France. Ah, si tout le monde pouvait se tourner vers lui, notre pays serait différent. La justice de Dieu régnerait. Jésus est parmi nous. Jésus ne délaisse aucun des siens. Que dire en conclusion de ce message? Que dire en conclusion de ce texte qui nous apporte ces deux signes d'espoir chez Ariashoub et Emmanuel? J'ai envie de dire qu'au milieu des turbulences, au milieu de l'agitation de ce monde, alors qu'on voit des nuages noirs poindre à l'horizon, Jésus vient, Jésus pleinement humain, qui comprend parfaitement ce que nous vivons. Mais Jésus vient, pleinement divin, conçu par le Saint-Esprit. Jésus vient comme notre espérance. Jésus n'a pas refusé de se salir en venant dans notre monde. Jésus ne s'est pas laissé effrayer par les discours de haine, par la violence. Jésus a osé affronter la foule qui un jour va crier « Crucifie-le !» Jésus n'a pas accepté dans ce monde de se laisser entraîner par la recherche du pouvoir. Il n'a pas accepté de se laisser entraîner par l'hypocrisie des religieux de son temps. Jésus est venu pour s'occuper des exclus, des petits, des humbles, de toutes les catégories sociales. Il est venu pour nous présenter le visage de son Père. Il est venu pour nous apporter un royaume nouveau, un chemin nouveau. Nous sommes invités ce matin à suivre Jésus, à regarder à lui. Il est notre seule espérance, notre seul espoir. Il n'y a pas de salut en dehors de lui. Faisons-lui confiance. Laissons toutes nos autres sécurités de côté. Rien ne pourra nous sauver hors de Jésus. Il est notre seul espoir, aujourd'hui et pour demain. Amen. J'aimerais prier avec vous encore. Seigneur, merci parce que tu es celui qui est venu apporter la paix, là où règne la discorde et la colère. Merci parce que tu es celui qui est venu apporter le pardon, la réconciliation, là où règne la haine et le désespoir. Merci parce que tu es venu apporter l'amour, là où domine l'égoïsme et l'égocentrisme. Merci parce que tu es le sauveur du monde. Merci parce que tu es notre salut. Nous voulons te dire ce matin ensemble que nous voulons te faire confiance, que tu es notre seul espoir et notre seule sécurité, et que nous voulons renoncer à toute autre sécurité pour ne voir que toi et n'avancer qu'avec toi. C'est en ton nom que nous te prions. Amen.